Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême, terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que
on se calmer.
Ah non mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que j'y mets.
Je ne donne pas de notes.
Ah bon.
C'est insupportable de donner une note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il t'a plu, il faut le noter. Ben allez vous faire boire les gars.
20h-22h, Génération After.
Quel plaisir de terminer le week-end en compagnie des drôles de dames. Paulo Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet, Fred Hermel.
On parle QI avec
en direct jusqu'à 22h. QI.
QI,
ouais. QI, ouais. En direct jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after autour de Gilbert Brivois, Florent Gautreau et Walid Acherchour jusqu'à minuit. La Ligue 1 sera de retour demain. On conclut ce week-end ensemble et on lance cette semaine européenne qui concerne nos clubs français, qui concerne l'autre demi-finale de Ligue des Champions. Dans un instant, le Real au programme, le Bayern également. Le 32-16, vous nous appelez et à 21h45, vous posez vos questions au drôle de dame. Et bien sûr, toujours YouTube, le chat où il y a monsieur Manhattan qui écrit à choisir, je prends plutôt Libop que l'Opetegui. N'hésitez pas à continuer à être efficace. Dans un instant, la minute de Polo.
Ah, mais Menotti vient de mourir. Menotti.
Ah, j'ai vu ça aussi.
Ah, ouais. Menotti, ouais.
À l'instant là
ouais, non, c'est parce que je vois sur Twitter. Donc voilà, c'était quand même quelqu'un dans le foot.
Et dans l'intervalle, je vous annonce également, ça n'a rien à voir, mais c'est factuel, l'ouverture du score de la Roma face à la Juve, Lukaku.
Un but de Lukaku, ouais.
Voilà. 1-0 ce soir, pour l'instant, pour la Roma, 17 minutes de jeu. L'Oréal, Polo, champion d'Espagne. On a parlé de Gérone tout
moi,
à l'heure.
Moi, c'est Fred, mais...
Fred. Oui, mais il y a quelque chose, vous ressemblez, c'est pour ça.
Mais Polo, oui, on a plus de cheveux, on est vieux, et nos deux clubs se rencontrent voilà. Mercredi, c'est ça.
Tu es vieux, moi j'ai encore du succès avec la jante féminine. Je crois
bah, et moi plus qu'avant d'ailleurs, surtout en vieillissant.
Surtout depuis que tu es de retour dans le game, Polo. Le 36e titre en Liga, Fredo, en pleine confiance avant cette demi-finale retour face au Bayern. Équipe Paris remaniée largement.
Ah bah oui, bah, de toute façon, à partir du moment où... Enfin, alors là aussi, on va commencer par un petit coup de gueule, qui est une très belle chronique dans Marca aujourd'hui en disant mais... franchement, la guerre permanente dans toutes les instances du foot espagnol est chiante. Pourquoi le Tebas, le président de la Liga, n'a pas permis d'intervertir les deux matchs pour que le Real, c'est-à-dire le match Gérone contre le Barça, s'est joué après le Real Cadix. C'est-à-dire que le Real aurait pu fêter son titre en l'emportant contre Cadix et fêter ça avec ses supporters. Alors que là, il a fêté ça dans le vestiaire.
Oui, d'accord.
Non, mais je veux dire, c'est quand même ridicule. Alors, ce qui est totalement contre-productif, c'est-à-dire que ça aurait donné beaucoup plus d'intérêt au niveau de la retransmission au match contre Cadix. Et de voir les supporters qui fait décamper,
oui,
tu vois. Parce
oui,
que t'as une espèce de dramaturgie en disant, voilà, Gérone a battu le Barça, si le Real bat Cadix, le Real est champion. Et donc, tu avais les campeones qui se mettaient en place, quoi. Donc.
Non, mais il a raison, Fredo, c'est un point très important. Et quand on parle d'expansion, dans d'autres pays, la qualité des images qu'on envoie aux autres pays, etc., rien ne vaut un titre fêté sur le terrain. Et on a eu cette polémique-là l'année dernière en Italie par rapport au Napoli. Où on avait fini par avancer un match parce que sinon ça risquait de se passer sur le canapé des joueurs du Napoli, ça n'avait aucun sens.
Mais voilà, c'est pour ça. Parce qu'en plus, t'as la dramaturgie, puis t'as les images et tout. Puis au bout du deuxième but, les gens qui sont campeones dans le stade. Tu vois ce que je veux dire? Il y a bon, ça c'est je file d'aparté. Donc oui, le Real avec plein de remplaçants et le Real qui a battu Cadiz qui se bat pour pas descendre en deuxième division. Alors 36e titre du Real Madrid. L'un des plus faciles de l'histoire. Alors, je suis désolé, vous allez me faire... Moi, je suis ravi que le Real l'a emporté, parce qu'il n'y a pas de doute. C'était de loin la meilleure équipe de cette Liga. Après, vous vous souvenez, à l'époque, on disait « C'est chiant, la Liga, il n'y a que deux clubs. Ben, » elle était dorée, cette époque. Hein. Parce que là, en ce moment, il n'y en a qu'un. Et c'est vrai que c'est, moi, je me souviens... Alors, vous étiez petit, mais quand le Real perdait à Tenerife sur une erreur de Paco Bouillot, deux Ligas de suite contre le Barça, quand
ouais, Djukic, que toi qui t'en souviens du coup.
Oui, bah non, mais quand Djukic, joueur du Deport, du Super Deport, manquait un penalty contre Valence et que c'est le Barça qui était champion, voilà, quand le Real de Zidane qui perd à domicile sur un but de domicile à la dernière minute dans le Classico et qu'après il va gagner 6-2 à la Corogne avec l'équipe B. Enfin, il y a
après, Après, tu dis ça comme si on était parti pour un. Tu penses qu'on est vraiment parti pour un cycle comme ça?
J'ai l'impression, parce que le problème aujourd'hui, c'est que le numéro 2, c'est Gérone. Bon, est-ce que Gérone sera capable d'être aussi fort la saison prochaine? On en doute. L'Atlético montre ses limites. Aujourd'hui, l'Atlético est à 20 points du Real. 20 points. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Vous avez le Barça qui est dans une crise structurelle avec des problèmes financiers. Et les règles du fair play financier espagnol qui font que ils vont pas pouvoir recruter beaucoup, et en tout cas ils vont devoir vendre des joueurs. Araujo, bon, tu me diras, il est pas très bon Araujo en ce moment, mais c'était quand même l'un des meilleurs joueurs de cette équipe l'an dernier, qui va sûrement être vendu. Donc voilà, tu te dis, est-ce qu'il y a pas une dynastie qui va s'organiser, enfin se mettre en place avec un Real qui va gagner facilement tout est lié. Moi le suspense n'est pas tout dans le foot. Mais c'est quand même agréable quand t'as des titres qui jouent la dernière journée, quoi, ou qui jouent sur le dernier classico. Donc moi, alors, je trouve ça un peu dommage. Après, on va pas enlever au Real le fait d'avoir été, ils n'ont perdu qu'un seul match, c'est contre l'Atlético, c'est tout. Enfin, je veux dire, et ça fait 28 matchs sans défaite. Ils ont égalé un de leurs records. Donc non, ce Real était largement au-dessus de tout le monde en Liga.
Alors l'événement autre de cette validation du titre, c'est le retour de Courtois, titulaire dans le but. Bon, clean sheet.
Non, mais en plus, le truc, il fait deux arrêts, donc un contre un exceptionnel.
Et du coup, ça peut être un problème, ça. Il peut y avoir débat pour la Ligue des Champions. Non,
ah bah, je pense. Alors, il y a deux joueurs qui reviennent là qu'on n'attendait pas, parce que c'était le ligament croisé pour Militao et pour Courtois. Militao rejoue depuis quelques temps. Là, il a joué tout le match, etc. Il avait fait des bons matchs. Sincèrement, Militao, c'est pas du tout la même position, gardien et défenseur. Militao, tu sens qu'il a encore un peu de mal à aller au contact. Tu sens qu'au niveau de la vitesse, il est pas encore totalement sûr de lui, tu vois, dans le démarrage, etc. Donc, je ne pense pas. Après, je peux me tromper. Je pense pas que Carlo prenne le risque de le faire jouer contre le Bayern ce mercredi. Et il y aura peut-être un doute jusqu'à la fin s'il y a une hypothétique finale. Par contre, Courtois, alors, ce mercredi, c'est Lunin qui va jouer.
Ça, on en est sûr.
Carlo l'a dit, donc il va pas changer.
Okay.
Mais il y a encore 4 matchs, si je dis pas de bêtises, 4 matchs où Courtois pourra être titulaire d'ici à la finale, oui, s'il y a finale. Là, franchement, ça va être un crève-cœur pour Ancelotti. Parce qu'Ancelotti, c'est quelqu'un d'extrêmement humain et qui va devoir, faire un, voilà, parce que Lunin, le Real, on est là aussi parce que Lunin a fait une très belle saison, oui, surprenante.
Je vous rappelle qu'ils allaient le dire toute l'année
alors qu'il était numéro 3, hein, parce qu'ils avaient pris Kepa pour remplacer Courtois. Et donc, le type, s'il t'amène en finale et qu'il n'est pas en finale, mais après, à un moment, il faut penser à...
Il se rappelle aussi qu'en 2022,
c'est Courtois qui
Benzema. Hein,
ouais. C'est plus facile de laisser sur le banc Lunin que Courtois.
Mais bien sûr. Et puis Courtois, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Donc on va voir ce qui se passe. Mais là, première fois où il a un contre un, il est magnifique. Courtois, en plus, qui a eu une saison terrible parce qu'il s'était fait le croisé. Et après, en mars, il s'était reblessé au ménisque. On pensait qu'il n'allait pas du tout revenir cette saison. Et il est là et il est bon. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase de Carlo ce week-end qui montre qu'il sait aussi être pragmatique, c'est-à-dire qu'on lui a posé la question sur Arda Güler, pourquoi est-ce qu'il a pas trop joué cette saison, pourquoi il l'a sorti hier, il était tireur, pourquoi il l'a sorti, etc. Il a dit au Real, on me demande de gagner, pas de donner des minutes de jeu aux jeunes. En gros, on me demande de gagner. Ben, la finale, même si humainement il est très, ça va être un crève-cœur pour lui. Je pense que la question de mettre Courtois va sérieusement se poser.
T'as vu, Polo, il est déjà en finale, Fredo.
Non, mais parce que là, automatiquement, non, j'ai dit une hypothétique finale.
Oui, c'est vrai que tu l'as dit une fois, tu t'es forcé au début.
Mais c'est logique.
On va en parler d'ailleurs du Bayern dans quelques instants. Donc oui, la défense. Pour ce match, donc Lunin, Nacho, ouais. Rudiger,
on va voir, mais voilà, mais l'équipe, on l'a, c'est à peu près, hein, c'est à peu près celle de la. Il y a Carvajal qui revient à la place de Lucas Vázquez, Carvajal qui était suspendu, et c'était un problème contre le Bayern, donc. Mais voilà, tout va bien au Real. Là, ils se sont reposés là. Vinicius a couru un petit peu et c'était un petit entraînement, mais voilà, donc c'est
le Bayern, c'était idéal. Hein, l'adversaire. Bon. On en parle dans un instant avec Polo, mais d'abord, c'est justement la minute de Polo.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Good evening.
Buenas noches, señoras y señores.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen.
Un
un peu de musique électro, ça fait.
C'est Kraftwerk.
Ça fait du bien. Non, alors c'était pas loin. Parce que c'est Karl Bartos qui a travaillé pour Kraftwerk il y a longtemps et qui a monté ce groupe, notamment cet album s'appelle Esperanto. Le groupe s'appelle Musique Électrique, Electric Music. Cette musique date de 1993 et donc j'ai voulu mettre ça parce que j'ai commencé mon dimanche avec un partenariat. Je suis allé sur une chaîne allemande qui s'appelle RTL Deutschland évidemment, qui appartient au groupe Bertelsmann, et j'ai vu qu'ils avaient passé un partenariat avec Sky Deutschland qui détient la plupart des droits en Allemagne du football, mais aussi de la Formule 1 ou d'autres. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ont réussi à passer un partenariat où, en gros, la RTL Deutschland va pouvoir diffuser 7 matchs de Formule 1, mais aussi des matchs de conférence. Alors, conférence, comme on appelle ça, le multiplex, on appelle ça en français, de seconde division. Il y a les matchs d'Europa League, etc. Et ils se prêtent les commentateurs, ils se prêtent les experts, etc. Et je trouvais le concept assez intéressant parce que c'est une forme de produit d'appel. C'est-à-dire que toute l'année sur RTL Deutschland, tu n'as pas évidemment la seconde division ou toutes les matchs d'Europa League, mais il y a ce partenariat que je trouve assez intéressant. Donc je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais en tout cas le concept m'intéresse parce que ça te permet, si tu préfères certains commentateurs ou experts de chaînes par rapport à d'autres, je trouvais ça intéressant. Donc
c'est,
voilà,
c'est en clair, Polo?
Ouais, c'est en clair, c'est ça qui est très intéressant. Ça fait un peu produit d'appel pour Sky Deutschland évidemment, de faire ça. Et par exemple, le match de Leverkusen en Europa League contre la Roma, je l'ai vu sur RTL Deutschland. Quand je dois passer sur la Bundesliga, je passe sur Sky, etc. Mais surtout, c'est pas payant. Et ça, je trouvais ça très intéressant, même si tu n'as pas le produit global.
Bien sûr. Mais c'est intéressant, tu as raison, parce que en fait, les chaînes réfléchissent de plus en plus. En Italie, ils ont beaucoup réfléchi au moment du dernier appel d'offres à mettre des matchs en clair.
Ben, je suis d'accord avec toi. Parce que ça permet d'éditorialiser d'une façon très intéressante parce que tu n'as pas le produit global.
Exactement.
Donc t'es forcé de travailler, entre guillemets.
Et surtout, mine de rien, il n'y a plus grand chose comme football en clair dans nos télévisions. Oui. Et ils estimaient que ça pouvait être aussi un très bon produit d'appel pour développer les droits télé, pour amener les gens à s'abonner de manière plus efficaces sur les autres, puisque nous c'était DAZN qui a les droits, mais on parlait beaucoup de Mediaset pour Leclerc par exemple. Ouais. Et d'ailleurs on voit que Mediaset, quand ils ont eux la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des matchs de Ligue des Champions en clair, ça cartonne.
T'es grave, bien sûr.
Ça cartonne.
Et puis un match de Première Ligue par semaine, j'avais oublié, qui comme par hasard c'est souvent Liverpool. Je sais pas pourquoi, mais voilà.
Non, nous en France on a Fred Hermel sur BFM TV, mais
bon. C'est en clair. Hein.
C'est en clair, mais. Mais tu parles plus souvent de foot, je crois.
Ah, si, l'autre jour, j'ai parlé de foot, je crois. Ah. Oui, ça m'arrive.
Pas sûr.
Mais toujours un aspect un peu politique du foot.
Il est 21h13 dans un instant. Le Bayern, justement, Polo, le Bayern battu une nouvelle fois hier à 3 jours désormais de sa demi-finale retour face au Real Madrid. Tu nous raconteras cette défaite inutile, selon Thomas Tuchel. Bayern qui se cherche d'ailleurs toujours un coach. On parlait de l'AC Milan tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le 32-16. On vous attend. N'hésitez pas à vos questions aux drôles de dames. Vous nous appelez à 21h45. Vous êtes en direct sur RMC. Face à Polo, face à Julien Laurence, face à Fred Hermel et face à Yoann Crochet. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Avec les drôles de dames en cette fin de week-end, vous êtes sur RMC, vous avez bien fait, la Ligue 1 n'est pas là ce soir, 5 mai, hommage aux victimes de Furiani, on aura Lille-Lyon demain en direct sur RMC, conséquence, les drôles de dames sont là 24 heures plus tôt et quel plaisir de conclure ce dimanche avec Yoann Crochet, Fred Hermel, Polo Breitner et Julien Laurence. On est en direct jusqu'à 22h, vous rappelez, Fredo en parlait tout à l'heure, le décès de César Luis Menotti, le sélectionneur de l'Argentine, championne du monde 78, rendez-vous à 22h dans l'after avec un invité pour revenir sur ce décès ce soir. Il avait 85 ans. Un hommage lui sera rendu dans l'after. Un partout entre la Roma et la Juve, mon cher Yoann.
But de Bremer sur un centre et donc du aérien, c'est la qualité principale des hommes de Massimiliano Allegri, le jeu aérien.
C'est bon, encore intact.
Non. En gros, c'est que bon, allez, on centre et puis il y a bien une tête qui va reprendre.
C'est un peu ça. Voilà.
À suivre, le point sur la course au maintien, justement, en Serie A. On parlera également avec Julien de Foden, élu meilleur joueur de Première Ligue. Il reste encore 3 voire 4 journées pour quelques équipes. On est toujours en direct sur YouTube. On parlait de droit télé, là, avec Polo, dans la minute, il y a quelques instants. C'est Sofiane qui a écrit un message en disant que la chaîne L'Équipe faisait pareil cette année. année, c'est vrai. On a le Prime qui fait ça avec l'équipe sur la Ligue 2. Il y a la Ligue 2 en clair le vendredi sur l'équipe, donc ça se fait un petit peu à plus bas niveau. Ah non,
en Espagne, tu as toujours, c'est une vieille tradition, tu as toujours un match en clair, hein, ouais, le championnat. Bon, c'est pas les grosses affiches.
Ouais. Mais bah, nous, en Ligue 1, il y en a zéro.
Non, ouais. Mais en Espagne, c'est vraiment.
Il
n'y
a toujours pas de droit d'ailleurs. On n'a toujours pas le diffuseur pour la saison.
Le milliard.
Dans Ligue 1. Voilà, le milliard ou presque. Polo, le Bayern battu à nouveau hier, battu face à Stuttgart 3-1. On est ce soir à 3 jours de la demi-finale retour de Champions League face au Real. Défaite inutile, dit Tourelle. Dans quel sens?
Ouais, j'aime bien ce concept parce que souvent on fait reprendre, est-ce que tu as déjà vu une défaite utile? Mais dans le cas présent.
C'est les défaites encourageantes d'habitude.
Ouais. Mais en fait, bon, déjà, Tourelle avait fait évidemment une rotation le plus possible en fonction du match contre le Real. C'était un match malheureusement important. Moi, je suis très en colère contre la 5e place, par exemple, que le football allemand s'est permis d'acquérir pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que tu demandes si on ne fausse pas finalement le championnat, ce qui n'a pas été le cas pour le Borussia Dortmund évidemment, mais s'ils n'avaient pas leur 5e place, ils n'auraient jamais fait tourner comme ça, quoi. Donc il peut y avoir des conséquences. Et là on avait évidemment Stuttgart qui est la révélation de la saison, évidemment avec Leverkusen qui jouait le Bayern Munich qui n'en a strictement rien à faire puisqu'ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, et à la rigueur c'est qui finira second de la Bundesliga. Et là, si tu veux, tu vois bien lorsque tu vas chercher un petit peu les statistiques ou que tu regardes la rencontre, que la notion de défaite inutile, c'est que pour ce que veut dire Thomas Tuchel, c'est que pour la confiance, on aurait fini à 1-1, ça aurait été tranquille. Le Bayern craque dans les 10 dernières minutes à 2 reprises, on a fait tourner. Malheureusement, à l'inverse du Borussia Dortmund, Davis et Tell n'ont pas utilisé leur chance, hein, parce qu'ils étaient titulaires au départ. Et tu peux aller chercher le 36e but en Bundesliga, si tu veux, d'Harry Kane, mais je pense que cela n'aura strictement aucune influence sur la rencontre de mercredi, qui sera très très importante, et tout le monde est focalisé. Le problème, c'est que Guerrero, il a eu un problème au pied, il est out. Donc rappelez que lors du match aller contre le Real, il est... Ah ben il est fini. Ah pardon, oui, pardon, oh là là.
Il est forfait.
Le bon élève derrière forfait, là-bas. Ouais.
Donc il est rentré, il avait rentré, rappelez-vous, à la mi-temps, à la place de Goretzka, il avait réussi une très très belle, une très bonne seconde partie de période. Et ça, c'est un peu délicat, parce que ça permet, on a de moins en moins de joueurs au Bayern Munich, et d'ailleurs c'est toute la saison, il y a eu des blessés dans tous les sens, donc on verra ce que ça va donner, évidemment, contre le Real, mais en tout cas du côté du Bayern, cette défaite inutile justement n'a pas beaucoup influencé les déclarations des joueurs. Quoi.
Et on parle plus en Allemagne, Polo, de cette demi-finale retour ou du futur coach.
Assez fou, c'est-à-dire que il faut vraiment avoir vécu en Allemagne pour comprendre ce que peut représenter le Bayern lorsque le Bayern va bien ou ne va pas bien. La recherche du coach, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que même les émissions grand public font des émissions spéciales pour expliquer mais comment se fait-il que trois entraîneurs aussi talentueux soient-ils, donc Nagelsmann, Alonso et Ralf Rangnick ont refusé le poste 2024-2025. Et évidemment, on se met à parler des éléphants, hein, donc Lyonnais, Karl-Heinz Rummenigge, Herbert Heiner, etc. Et je donne un exemple, il y a 72 heures, il y avait une émission où avait été invité Jürgen Klinsmann, donc ancien joueur et ancien entraîneur du Bayern Munich, et on lui dit, mais vous voudriez pas y aller et tout ça. Il dit, non, ça va, j'ai assez donné. Et en fait, derrière toutes ces critiques, tu as le style de management qui est souvent très conflictuel, justement, du Bayern Munich qui ressort, et on ne sait jamais vraiment qui est le vrai décideur au Bayern Munich. Est-ce que c'est Uli Hoeneß qui nous a sorti encore une de ses phrases, en gros, je vais rester poli, si vous voulez que je ferme ma bouche, eh ben, il faut me virer. Lorsque Rummenigge, première période, n'était plus le président du Bayern Munich, je me rappelle qu'il faisait des interviews tous les mois pour, en gros, dire, un, qu'il existait toujours, et deux, qu'il passait son temps à dire, mais le Bayern, là, ça va pas parce qu'il y a ça qui va pas, parce que tel coach est pas bon, parce que ce joueur est pas bon, etc. Donc on est dans une forme de comédie permanente, on n'est pourtant pas en Italie, mais le Bayern Munich fonctionne comme ça, et je me mets parfois à la place de Max Eber, le nouveau directeur sportif, ce doit pas être tous les jours évident.
Et on n'en sait pas plus sur le favori du coup maintenant.
Bah, écoute, moi j'avais été interviewé par RMC hier, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on m'avait demandé qui je pensais pourrait être une bonne solution. J'avais dit mais Roger Schmidt de Benfica pourrait être un candidat naturel parce qu'il jouit d'une excellente notoriété en Allemagne avec son passage à Leverkusen évidemment, et ce qu'il a réussi à Benfica et aux Pays-Bas. Et 2 heures après, il sortait un communiqué comme quoi il voulait pas y aller. Donc si tu veux, au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué. N'oublions pas que le Bayern Munich ne sait pas exactement quel type d'entraîneur il souhaite. Quand je dis ça, c'est est-ce qu'on veut un contrat d'un an pour préparer une nouvelle arrivée en 2025 qui serait évidemment l'Espagnol Alonso ou l'Allemand Jürgen Klinsmann, ou si on veut quelqu'un qui prépare un nouveau cycle sur 2-3 ans par exemple.
Le Bayern Munich face au Real, demi-finale retour de Ligue des Champions, ce sera mercredi, hein, semaine de fou qui vous attend sur RMC. On la lance dès ce soir avec les drôles de dames. Demain, la Ligue 1 l'affiche entre Lille et Lyon et ça enchaîne ensuite avec 3 soirs de Coupe d'Europe avant le retour de la Ligue 1. Avant de faire un point sur la course au maintien et revenir sur l'élection peut-être un peu anticipée de Phil Foden, meilleur joueur de Première Ligue, la minute de Julien tout de suite. I'm an alligator.
I'm a mama papa calling for you. I'm the spicy baby. Les meilleurs auront reconnu bien sûr David Bowie avec Moonage Daydream, pour moi l'une de ses meilleures chansons. Et une version un peu particulière parce que c'est la version enregistrée avec John Steele, qui était l'un des premiers très grands journalistes de musique ici en Angleterre, qui a lancé beaucoup de groupes de rock, notamment de rock indépendant aussi ici en Angleterre, dans toutes ses émissions de radio à lui. En anglais, le mot disc jockey vient de là en fait, vient de ces animateurs d'émissions de radio musicales, notamment sur la BBC, qui lançaient comme ça des groupes notamment très jeunes que personne ne connaissait et qui les rendaient très célèbres. Et donc John Peel dans sa magnifique carrière, lui qui est mort il y a quelques années quand même, mais dans sa magnifique carrière, enregistré aussi dans ses studios à lui des versions avec les plus grands artistes anglais, notamment David Bowie, l'un de ses plus grands amis. Et pourquoi je vous parle de John Peel et de David Bowie? Parce que John Peel était un grand supporter d'Ipswich. Ipswich qui vient hier d'être promu en Première Ligue 22 ans après avoir quitté l'élite anglaise. 22 ans, c'est long pour un club comme ça, un club assez historique d'ailleurs. Pour les plus vieux, hein, comme Polo et Fredo, vous rappelez sûrement les belles équipes d'Ipswich dans les années 80, bien sûr. Johan Lehmann, on est trop jeune, mais Thibaut, toi aussi. Mais pour les plus anciens, voilà, c'est un grand club anglais qui, malheureusement, depuis très longtemps, végétait un petit peu, pas simplement en Championship, mais aussi en League One. Parce que ce qui est beau aussi dans cette promotion, dans la montée de Ipswich hier, c'est que c'est la deuxième de suite. Ils étaient en troisième division, ils sont montés l'été dernier en Championship. Et donc, pour la première fois depuis très longtemps, Southampton, je crois, il y a 15 ans, une équipe enchaîne 2 montées de suite, ce qui est assez incroyable, avec ce jeune entraîneur, Kieran McKenna, qui a 37 ans. Lui, l'ancien adjoint notamment de Solskjaer à Manchester United, qui était un entraîneur chez les jeunes à Tottenham et à Manchester United aussi, et qui, dans ses 2 saisons pleines, parce qu'il est arrivé dans sa première saison, il était arrivé au mois de décembre, vient donc d'enchaîner 2 promotions consécutives dans ses 2 premières saisons pleines, un peu ce que Xabi Alonso a fait avec Leverkusen dans sa première saison pleine comme entraîneur. Lui a fait un petit peu pareil à son niveau à lui. Incroyable d'ailleurs, depuis son arrivée à la tête d'Ipswich, aucun entraîneur anglais dans les 4 divisions professionnelles n'a remporté plus de points que lui. Pas Arteta, pas Guardiola, pas Klopp, personne. Donc voilà, c'est aussi le succès de Kieran McKenna, l'un des plus prometteur entraîneur de cette génération britannique.
Et la Première Ligue, on en reparle dans un instant avec ce statu quo dans la course au titre et Foden élu meilleur joueur. Je passe des messages sur ton choix musical sur YouTube, Julien. Il y a Mara qui écrit « On s'en fout, mais nous les To Be Free ». C'est là que je me dis qu'il manque peut-être la minute du présentateur, tu vois. Le choix
non.
De
non, To Be Free, non. C'est pas anglais, hein, c'est pas chez moi, donc non, moi, je peux pas mettre un.
Non, mais français. C'est là, bon, après, ils ont chanté un peu en anglais parfois, il y avait des refrains.
Ouais. Mais c'est sûr que non. Tu veux que pour les bons raisons l'émission là ou...
Bah oui, évidemment. Mais justement,
parce que To Be Free, enfin, c'est, voilà. Bon, c'est.
Moi, ce que je voudrais, c'est amener mes choix musicaux et justement vous entendre les commenter.
C'est pas ça, les mêmes que le cinéma, ça.
Ouais, là, ça risque d'être compliqué.
Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurent, c'est Johan.
Est-ce que tu aimes le maudit, Thibaut?
Le maudit?
Aime le maudit, le film.
Aime le maudit.
Avec Bardot.
D'accord. Allez.
21h27.
Dans un instant, on continue.
C'est un chef-d'œuvre,
c'est un chef-d'œuvre du cinéma mondial allemand.
On est en direct jusqu'à 22h. On continue sur le.
Parce que tout à l'heure, je lui ai parlé d'Hiroshima pour l'amour. Il m'a regardé avec des grands yeux.
Oui, on a parlé un peu cinéma hors antenne avec Fredo. On n'est pas d'accord sur tout. On va dire ça comme ça. D'ailleurs,
Fritz Lang est un des plus grands réalisateurs du monde, tu sais.
Ouais. D'ailleurs, souvent les gens.
Aussi bien sa carrière allemande que sa carrière aux États-Unis.
Dans un instant, on fout, ça vaut mieux pour vous. 21h45. Vos questions aux drôles de dames, n'hésitez pas. Le 32-16, vous nous appelez. Vous êtes en direct sur RMC. La minute de Fred également. Et puis à 22h, c'est l'after. Hein. Gilbert Bribois sera là avec Walid Acharchour et Florent Gautreau. Et il y aura le départ sur RMC du Grand Prix de Formule 1 de Miami avec Jean-Luc Roy. Et il y a de la guest sur place. Zinedine Zidane sur place.
Ça va, ambassadeur alpine.
Ouais. Et ambassadeur, Ed Sheeran aussi, pas mal. J'aime bien.
Après avoir été à Ipswich hier, parce que lui aussi c'est un grand sponsor d'Ipswich.
Ah oui.
Et après d'Ipswich à Miami en jet privé, tranquille.
Voilà. Taxe carbone, nickel. Allez, à tout de suite sur RMC Génération After Drôle de Dame continue jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Génération After spécial drôle de dame en ce dimanche soir. Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Yoann Crochet sont là jusqu'à 22h ce soir. Ensuite, ce sera l'After Gilbert Bribois, Florent Gautreau, Walid Acharchour dans un quart d'heure. Vous avez la parole, le 32-16, vos questions aux drôles de dames, la minute de Fred à suivre, mais d'abord, alors que c'est la mi-temps entre l'AS Rome et la Juve, toujours un but partout, le point sur la course au maintien en Serie A avec toi, Yoann. Et là, ça va être beaucoup plus serré que dans le haut du tableau.
Ouais.
6 équipes, voire 7 sont concernées.
Ouais, 6 clubs en 4 points. Alors on peut estimer après cette journée que Lecce a un petit matelas quand même d'avance et que j'ai tendance à les mettre un peu en dehors de cette lutte-là. Mais on a surtout Sassuolo, Udinese, je pars du bas, hein, Sassuolo, Udinese, Empoli, Hellas Vérone, Frosinone et Cagliari. Ce qui est intéressant, c'est de voir que à la 37e et 38e journée, il y a Sassuolo Cagliari, Udinese, Empoli, Frosinone et Udinese. Donc que des rencontres
confrontations directes,
voilà, merci, entre les clubs qui luttent pour le maintien. Donc ça va être assez assez intéressant et très tendu, surtout je pense, ces matchs-là à venir. Alors je vais m'arrêter juste très rapidement sur deux clubs pour vous donner deux situations différentes. On a parlé de Sassuolo la semaine dernière dans la minute. Donc cette semaine, on va parler rapidement de Cagliari et de l'Udinese. Et parce que Cagliari, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les Italiens qui sont pas concernés directement par ces clubs-là, donc pas supporters de ces clubs-là, évoquent cette lutte pour le maintien. Et ils expliquent notamment que y en a qu'ils aimeraient voir descendre et d'autres qu'ils n'ont pas envie de voir descendre. Et il y a une très forte différence, pardon, entre Cagliari et l'Udinese. Et Cagliari, en fait, c'est pas tant pour Cagliari en le club, parce que c'est un club très identitaire, c'est des sardes et parfois il y a des vrais affrontements avec des Italiens du continent, du nord de l'Italie, entre guillemets, et Cagliari, il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir le club se maintenir pour une personne, Claudio Ranieri, qui est l'entraîneur de Cagliari, parce que Claudio Ranieri a une très belle image en Italie, parce que c'est quelqu'un déjà de foncièrement sympa, qui a jamais été un révolutionnaire dans le foot, c'est pas quelqu'un qui fait pratiquer un football dantesque à ses équipes, enlevé, etc., mais c'est quelqu'un qui a une bonhomie certaine, qui est toujours agréable, courtois, bien éduqué, etc. Et c'est quelqu'un qui a réussi à développer une très belle image à l'instar d'un Carlo Ancelotti pour d'autres raisons. Lui gagne en plus Ancelotti beaucoup, mais c'est deux des entraîneurs qui sont préférés des Italiens. Et l'Udinese, à l'inverse.
Il y a pas Rudy Garcia dans le.
Rudy Garcia, il y a encore des gens à Rome qui l'aiment beaucoup. À Naples, très peu. Et l'autre club, c'est l'Udinese. Et l'Udinese, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir ce club descendre. Pour, mon cher Julien, les Pozzo, la famille Pozzo, qui possède ce club-là, qui a fait un des premiers à faire de la multipropriété en Europe, avec à l'époque Grenade et puis Watford, évidemment. Parce que c'est un certain modèle de développement à travers de beaucoup de trading et du trading pas toujours très sain où on fait comprendre aux joueurs, allez, viens à Udinese, t'inquiète, dans 2 ans, on écrit ça sur le contrat, tu pourras aller à Watford en première ligue, s'ils sont en première ligue, ou sinon en championship, s'ils sont en championship et avec la vue sur la première ligue, évidemment. Donc, ils ont fait passer l'Udinese d'un club qui était très intéressant à un club de passage. Et ça, il y a beaucoup de gens en Italie qui ont une vraie culture foot, qui ont du mal à accepter ça. Et puis aussi pour un jeu catastrophique. Ça fait plusieurs saisons que c'est l'une des équipes les plus
pénibles.
pénible, merci, ouais, avoir joué avec du jeu comme on le faisait dans les années 80 en Angleterre. On balance tout sur l'attaquant qui est plutôt bon de la tête et on attaque les deuxièmes ballons. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de course, mais quand le ballon est dans les pieds, c'est pas forcément génial. Donc dans cette lutte pour le maintien, tout le monde en Italie prend un peu son petit club qu'il a envie de voir maintenir et le club qu'il a envie de voir descendre.
Mais ça c'est partout pareil. En Espagne, on a aussi des goûts comme ça pour des clubs, notamment. Puis il y a ceux aussi qu'on veut voir monter de deuxième à première division, quoi. Il y a des historiques comme ça.
Bah en France, je pense qu'on aimerait tous voir remonter Bordeaux, Saint-Etienne. Il y a Auxerre qui remonte.
Auxerre, c'est déjà fait, pardon. On a déjà pris une place.
Non mais sérieusement, franchement, Bordeaux, ça, surtout Saint-Etienne. Enfin, ne pas avoir Saint-Etienne en Ligue 1. Je veux dire, c'est un problème.
Et d'ailleurs, Udinese.
Mais on est moins sur les descentes. Tu vois, par exemple, là, sur tu regardes la descente en France, t'as Lorient, Metz, Clermont, Le Havre, Nantes. Bon, là, il n'y a pas de front commun pour vouloir descendre ou sauver un club non plus, quoi.
Donc, demain soir, horaire normalement des drôles de dames, il y a Udinese et Napoli. L'Udinese qui a mis sur le banc il y a une dizaine de jours, Fabio Cannavaro, pur napolitain.
Oh!
Supporter du Napoli, avec son frère, notamment Paolo Cannavaro. Des vrais napolitains, donc, match un peu crève-cœur, besoin de points pour l'Udinese et peut priver totalement le Napoli de Coupe d'Europe la saison prochaine.
Fabio Cannavaro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré dans le foot. Type fabuleux.
Ouais, en 2006, il a été un peu relou quand même, mais c'est normal.
Bah, alors après, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui dans le. Enfin, Ballon d'Or quand même, hein. Eh oui. Il avait le Ballon d'Or parce qu'il avait porté la coupe. C'était l'un des moins justifiés.
C'était peut-être pas l'Italien. Non. C'était peut-être pas cet Italien là qu'il fallait donner.
Ouais, mais c'est celui qui a soulevé le trophée et ça compte pour l'image. Et je lui avais dit quand même votre jeu à la con et tout ça. Là, il fait, puis il me regarde et il me dit tu veux voir les étoiles qu'il y a sur mon maillot en jouant comme ça.
Insupportable.
Non, mais c'est. Là, comment tu réponds à ça?
Il y a Nico dans le chat qui demande si l'Udinese descend, est-ce que Thauvin peut rester en série B?
Non. Je vois pas. Déjà rien que pour une question contractuelle, ouais, ça me semble extrêmement faisable.
La course au titre est d'ailleurs 32-16. Hein, si vous voulez poser vos questions dans quelques minutes, les drôles de dames sont à vous. Julien, la course au titre en première ligue, Arsenal a gagné, City a gagné, un week-end pour rien, quoi.
Ouais, un week-end sympa quand même. Un week-end sympa, mais effectivement un week-end où on n'a pas eu de changement. En tête de la première ligue, on reste avec un point d'avance pour Arsenal, avec City qui reste derrière, mais avec un match de plus à jouer contre Tottenham dans dix jours de ça, avec une différence de but toujours. Légèrement plus 6, donc supérieur pour Arsenal qui a marqué 3 buts contre Bournemouth à domicile en portant 3-0 face à cette équipe de City qui a démoli Nottingham Forest,
Wolverhampton
à domicile avec un quadruplé, merci Yo, avec un quadruplé de Erling Haaland. Vous savez, le joueur qui avait le niveau d'un joueur de 4ème division, comme nous l'avait appelé Roy Keane il y a quelques semaines de ça, et qui est donc revenu à un très très bon niveau, même s'il y a quand même 2 pénaltys sur les 4 buts. Donc voilà, il y a aucun changement finalement, sauf que, comme on le dit maintenant depuis plusieurs semaines, ça reste entre les mains de City et que City pourrait terminer champion avec un point d'avance s'il remporte tous leurs matchs, les 3 qui restent maintenant, à Fulham, à Tottenham et à domicile contre West Ham. Quand pour Arsenal il reste que 2 matchs à l'extérieur à Manchester United et ensuite pour finir à domicile contre Everton. Donc on verra si City va craquer un moment, on verra si Arsenal va craquer. Alors les 2 gros matchs semblent être le week-end prochain, donc dimanche prochain à Old Trafford pour Arsenal contre United, et puis à Tottenham pour City, même si cette équipe de Tottenham, on l'a dit, qu'a défaite de suite en perdition totale. Donc j'ai du mal à voir où City pourrait perdre des points, mais tant que les matchs n'ont pas été gagnés au coup de sifflet final de l'arbitre, il y a toujours un risque forcément, il y a toujours un espoir pour Arsenal et pour City à gérer cette pression aussi.
Est-ce qu'il a retenu plus ton attention ce week-end, Julien, c'est ce titre très honorifique remporté par Phil Foden, joueur de l'année élu par les journalistes. La saison n'est pas finie.
Ouais, c'est ça. Alors c'est ça qui me gêne un tout petit peu, parce que sur le fond, qu'il soit nommé meilleur joueur, il y a pas vraiment de débat finalement. C'est la meilleure saison de sa carrière. Il a 23 ans, c'est 24 buts et 11 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues. C'est du très très haut niveau. C'est assez incroyable d'ailleurs les paliers qu'il a franchis cette saison, l'importance qu'il a dans cette équipe de City, mais aussi globalement dans son jeu. Donc sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Alors il y a deux titres de joueur de la saison, un par les joueurs eux-mêmes, donc ce sera plus tard, et celui par les journalistes, comme tu l'as dit, qui est très important, la presse, les médias sont très importants. C'est un titre que les joueurs aiment aussi remporter. Donc c'est très important. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on l'a dit, il reste 3 matchs, 2 matchs, ça dépend pour qui, et que
bon, qu'est-ce qui se passe si
Arsenal est champion. Non, mais si Arsenal est champion et que Bukayo Saka marque 3-2 à trick dans les deux derniers matchs, de triplé, pardon, Polo, dans les deux prochains matchs. Voilà, ou si Marcelo de Garde le fait, ou Declan Rice,
oui,
ou mais si.
Est-ce que t'enlèves quand même pas la même si, imaginons, Foden rate ses trois derniers matchs, tu restes quand même sur une impression sur cette saison où il a été stratosphérique quand même. Peut-être au-dessus de Saka ou de Garde, non?
Ben oui, peut-être, sauf que si Odegaard amène le titre à Arsenal pour la première fois depuis 20 ans, alors que Foden, ça fait quand même, ce serait le quatrième de suite, dans une équipe qui est archi-dominante, depuis, archi-dominatrice depuis l'arrivée de Guardiola maintenant. Je sais pas, pour moi, Odegaard qui amène Arsenal au titre avec une saison, avec la saison qu'il fait en plus, ça voudrait aussi dire beaucoup. Donc voilà, mais encore une fois, sur le fond, il y a pas de débat sur le fait que Foden mérite de remporter aussi ce trophée-là parce qu'il a été extraordinaire, comme tu l'as dit. Mais voilà, pour moi, l'équipe qui est championne, souvent le titre de meilleur joueur, ou en tout cas le meilleur joueur, doit appartenir à cette équipe-là. C'est pour ça que j'aurais attendu, personnellement, de savoir qui est champion, parce que je pense que ça aurait aussi une influence sur le vote des journalistes, le choix des journalistes.
C'est-à-dire pour toi, le ballon d'or, forcément que ce soit le joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'année, quoi, c'est ça?
Non, mais ça, c'est différent, parce que là, tu parles de. Là, c'est le choix du meilleur joueur anglais. Pour le ballon d'or, c'est tous les championnats réunis, c'est aussi la Ligue des Champions, c'est la Coupe du Monde quand il y en a une, c'est l'Euro, il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu. Qu'une saison domestique qu'on peut l'avoir dans chacun de nos championnats.
T'as voté pour lui?
Je vote pas, moi.
Une star comme toi ne vote pas là-bas, quoi.
Je vote pas. Je vote un moment, mais je vote plus.
Okay. 21h43, les drôles de dames dans un instant, le 32-16. Vous avez la parole. Vos questions à Polo, à Fredo, à Johan et à Julien. Mais d'abord, la dernière minute de la soirée. La minute de Fred. Una noche guaraní.
Rolio, t'avais pas mis du Rolio Iglesias cette année?
Non.
Je rappelle, ancien gardien du Real Madrid.
Mais tu vois, on en a parlé un peu dans l'émission. Je préférais les sons de son fils.
Voilà.
Ma mère m'a fatigué avec cette chanson.
Elle est magnifique. Alors, Rolio Iglesias, qui a été gardien des jeunes du Real Madrid et qui s'est mis à la chanson, ce qui a eu un grave accident de voiture. Il est resté sur un lit pendant un an. Et donc il a commencé à chanter sur son lit d'hôpital et il a réussi pas mal la carrière au niveau de la chanson. Blanca Paloma, la colombe blanche. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que le football espagnol, plutôt la ministre Pilar Alegría, qui est la ministre de l'éducation et des sports en Espagne, et le conseil des ministres espagnols ont choisi une colombe blanche pour essayer de pacifier un petit peu la fédération et toute l'image que donne la fédération espagnole. Vicente del Bosque. Voilà ce qu'on a présenté comme un homme aimé, respecté. Vicente del Bosque, qui est devenu, parce que je le dis parce que c'est quand même spécial, le président de la commission de supervision, de normalisation et de représentation du football espagnol, de la fédération espagnole, parce que je vous rappelle que l'ancien président Rubiales est poursuivi pour l'histoire du baiser forcé à Gini Hermoso, mais aussi pour plein d'histoires de malversations, que Pedro Rocha, le président actuel qui est en intérim jusqu'aux prochaines élections, lui aussi est au cœur d'une enquête pour ces mêmes histoires pas très claires de prise illégale d'intérêt et de corruption. Et donc il fallait quelqu'un pour représenter un petit peu le foot espagnol, et quelqu'un par exemple notamment pour aller à la finale de la Ligue des Champions, pour aller à l'Euro, pour aller aux Jeux Olympiques. Et ben le ministère et le gouvernement a choisi quelqu'un qui fait à peu près l'unanimité en Espagne, ancien entraîneur du Real, mais surtout sélectionneur de l'Espagne, champion du monde en 2010, Vicente del Bosque. Donc c'est plutôt bien de ne pas avoir un
mec à l'UEFA, ça par contre.
Alors, tu as raison de lancer ça. L'UEFA regarde ça de très très près. Et il y a toujours un risque.
Ils n'aiment pas l'ingérence des ministères.
Et que les clubs espagnols puissent être en dehors de l'UEFA, enfin c'est l'UEFA, la FIFA, c'est tout ça, c'est tous les organismes internationaux qui n'aiment pas, c'est surtout la FIFA d'ailleurs qui regarde ça, les ingérences, mais oui, c'est pour FIFA, ça que le gouvernement fait très très attention.
Johan.
Juste 20 secondes, en Italie, on parle d'une intervention du gouvernement pour créer une sorte de commission aussi pour valider les licences des clubs au niveau économique pour s'inscrire à la Serie A, et là encore, l'UEFA et la FIFA... Ouais. Vont regarder ça de très près si ça arrive.
C'est de l'ingérence.
Les clubs sont totalement contre cette commission ou ce département que veulent mettre en place le gouvernement. Et ça pourrait créer des problèmes aussi.
Ça va repartir entre la Roma et la Juve, le match du soir en Italie. Un but partout, 21h46, le dernier quart d'heure de ce Génération After spécial Drôle de Dame pour conclure votre week-end. Le 32-16 pour le conclure de la meilleure des manières. Vous venez poser vos questions aux Drôles de Dame tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Et oui, 21h49, dimanche soir, et les drôles de dames sont bel et bien là. Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet, Fred Hermel, jusqu'à 22h, pas de Ligue 1 ce soir, hommage aux victimes de Furiani. L'affiche entre Lille et Lyon aura lieu demain soir sur RMC. Les drôles de dames sont donc là ce soir, si vous avez raté le début d'émission, pas de souci, hein, ce sera dispo en podcast dans quelques minutes. À 22h, l'after autour de Gilbert Bribois, Florent Gautreau et Walida Cherchour avec vous tous au 32-16. Il y aura également le départ du Grand Prix de Miami à suivre à partir de 22h. Avec Jean-Luc Roy. Tout de suite, le 32-16, vous nous appelez et vous posez vos questions aux drôles de dames sur le Direct Studio également et toujours sur YouTube où je lis, je vois vos messages. Guillaume est là au 32-16. Salut Guillaume, bienvenue sur RMC.
Bonsoir tout le monde.
Ciao Guillaume. Comment ça va Guillaume ?
Salut Guillaume. Bah, ça va super avec vous ?
Bah, ça va en pleine forme. T'as une question pour qui ce soir ?
Ah bah pour Julien.
Ok. Ah, bien Guillaume.
Bonsoir. Avant de commencer, je me permets vite fait, il y a mes filles qui doivent certainement écouter, et je leur ai dit que j'allais parler à Julien, donc elle m'a dit « Ah bon, tu vas parler à Julien comme si t'étais déjà de la famille ?» Donc voilà, elles ont 6 ans, 7 ans, donc n'hésite pas à leur faire un petit coucou en passant.
Ah, c'est bien les filles, bravo, c'est la famille.
Elles s'appellent comment ? Vas-y, donne les prénoms.
Louise et Lucie.
Et ben voilà, gros bisous à Louise. Salut, et Lucie.
Très jolie prénom.
Et puis elles sont contentes que je parle de Chelsea, puisque bah, maintenant on en parle de moins en moins. Donc on est là pour continuer à en parler et ça tournait notamment autour de Pochettino puisque au vu de la saison avec voilà le remaniement des équipes plus le nombre de blessés où j'ai jamais vu ça, ça valait le coup de virer le staff médical vu le résultat. Bah du coup qu'est-ce qu'on doit penser de l'entraîneur? Est-ce que il a vraiment besoin de temps? Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation ou est-ce que bah finalement il fait pas le taf avec tous les éléments qu'on lui a donné en main et qu'on pourrait en attendre plus.
Ouais, c'est une bonne question, Guillaume. C'est un bon débat. On n'a pas trop le temps, malheureusement. J'ai pensé à le faire ce soir, mais c'est pareil. Il fallait un petit peu plus de temps aussi. C'était très bien aujourd'hui, j'ai trouvé. Alors, West Ham, vous savez ce que j'en pense,
hein, 5-0, Dallas,
etc. Le dinosaure, ouais. 5-0. Même si West Ham frappe 3 fois sur la barre. Mais ça aurait pu être même 6 ou 7, hein, tellement Chelsea a été bon et dominateur, etc., etc. Donc, il y a des bonnes choses cette saison, Guillaume. Sincèrement, Pochettino, malgré toutes les blessures, malgré la jeunesse de l'effectif, malgré le fait que Nico Jackson c'est pas un numéro 9 et qu'il a joué en numéro 9 toute la saison, même si là c'est un petit peu mieux encore dans l'efficacité, on l'a vu aujourd'hui. Il y a des choses positives. Il y a aussi la fessée contre Arsenal qui, je pense, a fait beaucoup de mal à un moment où ça jouait un petit peu mieux, même s'il y a eu la défaite en FA Cup en demi-finale quelques jours avant. Même lui s'interroge sur son propre avenir. Et quand un entraîneur publiquement s'interroge sur son propre avenir en disant je sais même pas si je serai là, aller demander aux propriétaires, aller demander plus haut ce qu'ils veulent faire de moi parce que j'ai encore un an de contrat, en général c'est pas bon. On sait par exemple que Todd Boehly, l'un des deux propriétaires, en a eu un peu marre du foot. Il avait acheté le club, il pensait que ce serait bien, puis finalement ça l'a saoulé très vite. Et que le deuxième grand propriétaire, avec Bali, est pas trop fan de Pochettino. C'était pas son choix, c'était le choix de Boehly. Donc est-ce que ça veut dire que Poch est sous pression? Sûrement. Est-ce qu'il va se faire virer? Je sais pas. Il faudrait encore recommencer à zéro. Encore une fois, ils peuvent encore se qualifier peut-être pour la Conference League, voire même l'Europa League. Donc faut voir, je sais pas. C'est une saison, juste pour finir, parce que je sais qu'il y a d'autres questions pour les autres. C'est tellement compliqué finalement, enfin pas compliqué mais assez fascinant à essayer d'analyser, de déchiffrer, parce qu'il y a eu vraiment des bonnes choses et d'autres choses qui ont été catastrophiques. On en reparlera à la fin de la saison, je te promets, mais là c'est compliqué de le faire en si peu de temps.
Ouais Guillaume, merci d'avoir été là. Bah, à bientôt, bonne soirée. Hein.
Et également à vous.
Salut Guillaume, bye bye. Le 32-16 où nous appelle également Anzo. Salut Anzo.
Bonsoir tout le monde.
Oh, un classique.
Ouais, Anzo. Ah, oui. Anzo, j'imagine que tu auras une question pour Paulo Breitner.
Exactement.
Non, question italienne, non, évidemment.
Oui.
Est-ce que Anzo a une question sur le Napoli?
Je crois.
Vous connaissez ou pas?
Oui,
bah,
oui.
Il appelle toutes les semaines. Et depuis 15 ans.
Je devrais écouter un peu plus cette émission.
Non, Anzo.
C'est bon,
ouais, je voulais interpeller Johan parce que ben ce week-end c'est le week-end nostalgie pour les supporters napolitains. Notamment hier, je suis allé voir le film à Naples sur le Scudetto Sarro Conte, orchestré par notre grand et cher président Aurelio De Laurentiis, qui pour une fois, je crois, il a fait quelque chose de pas trop mal en termes cinématographiques, on peut dire. Mais ça interroge sur plein de choses. En fait, moi, entre guillemets, ça m'a permis de faire la paix entre guillemets avec les joueurs. C'est quand on voit la saison qu'ils ont fait. En mode, les gars, ce que vous avez fait, en fait, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement mythique, mystique, parce qu'on voit toute l'influence de Maradona aussi dans l'approche de Spalletti, etc. Bah, en fait, c'est un peu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous attend en fait ? Qu'est-ce qu'on doit attendre du Napoli à la fin de cette saison ? Parce que Johan, la saison dernière, m'avait dit dès le soir du Scudetto, bon bah accroche-toi, la saison prochaine, ça va être compliqué. Mmh. Maintenant, que j'ai bien galéré. Ouais, bon, pour le coup, il avait plus que bien vu. Et vu qu'il a bien vu, maintenant, je m'attends à quoi pour la saison prochaine, quoi.
Okay. Vas-y. Regarde dans ta boule de cristal.
Ouais, c'est un peu ça. Non, mais Enzo, en fait, ce film-là, et de manière générale, c'est important parce que, au-delà même des souvenirs, au-delà même de, ça permet d'ancrer les choses dans le temps. Et ne pas simplement rester sur les souvenirs qu'on a vécu ce jour-là, ce soir-là, ces semaines-là de belles victoires. Mais aujourd'hui, dans 10 ans, tu pourras regarder ce film avec cette nostalgie et te remémorer tous les instants que tu as vécu aux côtés du Napoli cette saison-là. Maintenant, pour l'avenir, bah, le problème du Napoli, c'est que si ton cycle ne dure que 2 ans à chaque fois, bah, tous les 2 ans, ça veut dire que tu redémarres pas d'une feuille blanche, mais quelque part pas loin non plus. Donc ça dépend quel type de coach tu prends. On a fait le grand écart entre Spalletti et les 3 entraîneurs cette saison. Tu vas repartir encore sur autre chose avec des nouveaux joueurs. Tu vas vendre les meilleurs joueurs. Tu vas essayer d'en garder au moins un comme Gvara. Mais il y a beaucoup trop de changements et d'instabilité. Et on le sait, Naples, comme Rome, c'est l'instabilité émotionnelle, l'instabilité des finances parfois, l'instabilité des propriétaires, l'instabilité de tout, des entraîneurs, des joueurs. Donc c'est très difficile de s'inscrire dans la durée. Ce qui est certain, mon cher Enzo, c'est que t'aurais signé, et j'en suis à peu près persuadé, pour avoir une saison de Scudetto et des souvenirs pour la vie, et une saison totalement galère derrière. Plutôt voilà. Que 2 saisons en étant deuxième et en te qualifiant à chaque fois pour la Ligue des Champions.
C'est beau ce que tu viens de dire, Yoann. Merci Enzo d'avoir été là. À la semaine prochaine.
Merci à vous.
Salut Enzo.
Ciao Enzo.
À très vite. Bye bye. Plus beaucoup le temps. Juste un message sur le direct studio de Mika, parce que c'est un peu la question qu'on se pose tous. Polo, est-ce que tu penses que le Bayer Leverkusen, comme moi, va finir invaincu? 5-1, ils ont mis à Francfort aujourd'hui.
C'est fou. Parce que c'est
avec une équipe
fois... Avec une équipe, ouais, mais en plus, on le turnover habituel, mais c'est fou parce que c'est un match à enjeu, surtout pour Francfort, qui n'est pas encore qualifié pour la prochaine Europa League, voire plus, en fonction des résultats en Ligue des Champions. Donc tu te dis, si Leverkusen laisse tomber cette rencontre, on s'en fiche complètement. Ils en mettent 5 à Leverkusen, à Francfort. Bon, ils sont chanceux en première mi-temps. Xhaka marque encore une fois un superbe but, mais il rentre au vestiaire en menant 2-1. Je pense que, bah, en fait, la priorité des priorités, c'est le triplé quand même. Hein. Ensuite, s'ils finissent invaincus, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, et même si Alonso était suspendu pour cette rencontre, hein, parce qu'on dit toujours qu'il est très sympathique, mais il se prend un paquet de cartons jaunes, il est dans une logique de turnover qui fait que toute l'équipe est motivée pour jouer. Et même Boniface, qui est quand même le grand absent des dernières journées, marque sur penalty. Donc tout le monde a sa part du gâteau, et c'est une gestion qui est toujours intéressante. Donc pour répondre à ta question, je pense en effet qu'il n'y a pas de raison qu'il ne finisse pas invaincu, mais je vais dire quelque chose sans présager de l'avenir. Attention au retour de bâton, quoi. Parce que ce n'est pas une grande équipe, ce sont des grandes performances, c'est très différent pour moi.
Vas-y, voilà, conclue, Polo.
C'est un momentum extraordinaire pour les Leverkusen, évidemment, qui aurait déjà dû gagner de la Bundesliga bien avant avec des meilleures équipes, mais je me demande comment ça va se passer l'année prochaine.
Voilà. Et comme l'écrit Corbier dans le chat, c'est peut-être pas le vrai, Leverkusen connaîtra sa première défaite contre l'OM. Ils sont nombreux à le penser. Il rajoute, je déconne.
C'est possible.
Merci les gars, ça a été un plaisir de conclure ce week-end avec vous. Polo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence. Merci, c'est toujours gentil de dire ça devant le boss. Gilbert Bribois arrive dans un instant. On vous retrouve tout au long de cette semaine. Les gars, c'est le début d'une semaine de folie sur RMC avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 demain soir, ce Lille-Lyon dans un instant l'after. Gilbert Bribois, Walid Acharchour et Florent Gautreau, plus le départ du Grand Prix de Miami. Vous êtes sur RMC, le foot continue jusqu'à minuit.